Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Alors aujourd'hui on va ouvrir peut-être un cycle sur la collapsologie et sur les questions d'effondrement. Alors ça nous est venu puisque cet été et en fait depuis quelques années en fait est de plus en plus présente dans l'espace médiatique militant mais pas que. Une approche de la question environnementale qui est de plus centrée sur la question de l'effondrement et qui prend le nom de collapsologie. Alors, bon, nous, pour tout vous dire, il ne s'agit pas de remettre en cause pour nous la réalité du désastre écologique en cours, mais plutôt de comprendre la spécificité de la formulation contemporaine pour ceux que l'on nommera donc les collapsologues. Parce que si l'ampleur du désastre est désormais actée, à la fois par les scientifiques et la population, en revanche, la façon dont notre époque a de formuler la chose n'est absolument pas neutre politiquement, et que de la façon de poser le problème découlent en partie les solutions qu'on pourra y apporter. Alors, pour tout vous dire, en ce qui nous concerne, il y a quelque chose d'assez dérangeant pour nous dans la collapsologie. Alors, et ce quelque chose, il pourrait bien provenir justement de ce qu'elle ne parle pas tant de la catastrophe environnementale en cours que de l'effondrement civilisationnel qui pourrait en résulter. Donc, ce qu'on propose, c'est de revenir sur ça en plusieurs émissions. Alors aujourd'hui, on va recevoir Jean-Baptiste Fressos, qui est historien des sciences et de l'environnement, qui va avec nous revenir sur une petite perspective historique de ces questions de l'effondrement. Avant de venir plus précisément au sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, quelques mots sur ce week-end, puisque ce week-end, une manifestation est organisée, plusieurs manifestations sont organisées, dont donc l'une qui est le grand rendez-vous des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Et il se trouve que...
Dès vendredi, l'appel lycéens étudiants à bloquer leurs établissements scolaires et à manifester pour la sauvegarde du climat.
Voilà, alors, et donc la deuxième manifestation, effectivement, donc c'est celle pour le climat qui a lieu aussi donc vendredi à l'appel des lycéens et samedi à l'appel des organisations environnementales. Alors, le slogan qu'on entend de plus en plus, c'est « fin du mois, fin du monde, même responsable, même combat ». Et effectivement, ce slogan, il a, je trouve, politiquement, une résonance assez énorme. D'une certaine façon, le problème, c'est que politiquement, dans les faits, il ne se décrète pas. Et donc, il va falloir effectuer des jonctions. Et donc, des groupes militants, à la fois soit des groupes gilets jaunes, soit des groupes de militants environnementaux, se proposent d'organiser une manifestation commune au départ de la Madeleine. Alors l'idée, c'est que la dernière fois que ça a essayé de se produire, c'était au mois de mars, ça n'avait pas été une très grande réussite. Et bon, pendant que le Fouquet's était pillé sur les Champs-Élysées, il y avait une marche climat qui était en fait dans un autre espace et que les deux ne se sont pas vraiment rencontrés. Alors là, il y a l'idée de formuler un peu plus clairement la chose avec un appel à se rendre à 9h à la Madeleine pour aller conjointement manifestation climat et gilets jaunes à la manifestation de 10h. Voilà. Donc voilà, le rendez-vous, ce serait 9h Madeleine pour être à 10h sur les champs. Voilà. Alors si on revient à nos affaires de collapsologie, donc la d'une certaine façon, telles qu'on les entend en général, les affaires environnementales, on a toujours l'impression qu'elles émergent comme ça, qu'elles sont presque propres à notre époque, qu'on a l'impression que, en gros, il y aurait comme ça une prise de conscience environnementale. C'est généralement la figure utilisée. Et sauf qu'en fait, on se rend compte, quand on invite des historiens et qu'on les lit, qu'en fait, les questions environnementales, elles sont assez anciennes. Il y a déjà, dès l'Ancien Régime, puis au XIXe siècle, beaucoup de questions environnementales qui ont plutôt en fait, été étouffées au fin 19e pour réémerger dans les années 60, mais qu'en fait, elles sont anciennes. Et qu'au-delà de ça, même la question même de l'effondrement, elle est aussi en fait assez ancienne.
Oui, complètement. Alors, en deux mots, pour aller très vite, en gros, sur environnement. Fin 18e, l'environnement, c'est 1000 fois plus important que pour nous maintenant. Pourquoi ? Parce que l'environnement, c'est une catégorie qui est d'abord médicale. L'environnement, c'est tout ce qui détermine la santé des populations. C'est une époque où on n'a pas encore la théorie des microbes et des bactéries. Et donc, pour expliquer, par exemple, une épidémie, c'est qu'il y a une transformation dans l'environnement qui fait que tout le monde tombe malade. Donc, les gens étaient hyper préoccupés des questions environnementales fin 18e siècle, dans le sens environnement qui détermine la santé, la forme des corps même. Hein. On est dans un moment aussi où on pense qu'on va dégénérer si on abîme l'environnement. Donc, l'environnement a été ultra important, effectivement, fin 18e et encore loin dans le 19e siècle. Effondrement, maintenant. Effondrement, ça, c'est plus compliqué, mais on peut dire que l'une des premières figures de l'effondrement, c'est aussi fin 18e siècle que ça apparaît, avec deux mouvements parallèles. Il y en a un qui est hyper connu et qui est encore avec nous, qui revient avec nous avec cette affaire de collapsologie, qui est Malthus, en Angleterre. Où là, évidemment, Malthus, l'idée, c'est qu'il faut éviter la prolifération des pauvres, sinon on aura un effondrement environnemental, des guerres, etc. Et puis fin 18e, ça c'est beaucoup moins connu, en France, il y a tout un discours sur la déforestation et le changement climatique qui émerge, surtout pendant la Révolution française, où pareil, on a l'invocation d'un effondrement futur environnemental et climatique si on ne respecte pas les forêts, avec la trajectoire prévisible, c'est les civilisations orientales, Palmyre, Babylone, dont on a redécouvert il y a peu les vestiges. Et l'idée à cette époque, c'est souvent des hommes politiques et des administrateurs forestiers qui, pendant la Révolution, mobilisent cette figure-là en disant « il faut faire gaffe, c'est pas parce qu'il y a eu la Révolution que tout est permis ». Et donc l'idée, c'est de contrôler l'action des paysans, des masses rurales qui sont les ferments de la Révolution au départ.
Sachant que la forêt est largement associée à la noblesse.
Là, exactement, en plus.
Qui est historiquement le gestionnaire de la forêt.
Exactement. En gros, enfin, même plus précisément, à partir des 1760, les nobles, en fait, le prix du bois augmente. Les nobles vont commencer à créer des forêts industrielles, en gros, des usines à bois. Et ça, les paysans sont furieux parce que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire paître leurs bêtes dans les forêts. Et donc, en 1789, un des premiers trucs qui se passe à travers toute la France, c'est les paysans qui reprennent possession de droits d'usage, donc de, par exemple le droit d'aller envoyer paître ses cochons ou ses chèvres dans la forêt, qui avaient été privés, ils étaient privés de ça pendant ce qu'on appelle la réaction féodale des années 1760. Donc il y a cette énorme angoisse parmi les politiciens de la Révolution française à l'Assemblée nationale qui défendent, eux, mordicus, l'idée de propriété privée. Et ils vont brandir l'effondrement. Finalement, c'est une façon de gouverner les masses rurales. Parce que c'est hyper compliqué de contrôler les forêts. Il faut envoyer des gardes forestiers, c'est très très difficile. Et donc l'idée, c'est d'inculquer un amour de l'arbre et de la forêt en disant si vous bousillez les forêts, en fait, vous bousillez le climat et donc vous attentez à vos propres récoltes. Et on est à un moment aussi où, évidemment, je veux dire, la question de la survie était beaucoup plus ardue que maintenant. C'est-à-dire, on était toujours au moment de la soudure, dans des moments où c'était difficile de nourrir les populations. Et c'était des moments politiques cruciaux et hyper risqués. Donc, c'était vraiment une question inflammable, quoi, cette question du changement climatique, de l'effondrement.
Mais, et alors, elle se formule comme ça, parce que tu as parlé de effondrement et de climat. Ouais. On parle vraiment de climat à ce moment-là.
Oui,
sauf que ça ne veut pas dire exactement la même chose que maintenant. Évidemment, on n'est pas sur un climat global. C'est une question de sécheresse. Ça veut dire quoi, le climat à ce moment-là?
En fait, on est à toutes les échelles qui sont concernés. C'est à la fois le microclimat, le lieu, effectivement, qui est directement visé. Quand on coupe une forêt, ça attente au climat de tel ensemble rural, etc. Mais il y a déjà l'idée de climat global au XVIIIe siècle pour une raison toute simple. C'est qu'on est dans un cadre créationniste. On pense que la Terre a été créée par Dieu et que la Terre est organisée parfaitement par Dieu. Et sur cette organisation de la Terre, il y a des cycles de matière, en particulier un cycle de l'eau. Et les forêts jouent un rôle important dans le cycle de l'eau, même un rôle fondamental dans le cycle de l'eau pour les savants du XVIIIe siècle.
C'est plutôt un réchauffement ou un refroidissement du climat qui fait peur, comme on a...
Alors,
juste avant la Révolution française,
c'est plutôt un refroidissement.
Ouais,
clairement, c'est plutôt un refroidissement, mais aussi des sécheresses, des coups de vent, des précipitations bizarres. C'est plutôt un dérèglement du climat que quelque chose. Alors, il faut bien voir aussi qu'on n'est pas du tout dans le même... Il n'y a pas du tout le même consensus scientifique. Il n'y a pas du tout les mêmes outils technologiques pour faire un diagnostic du changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à appréhender.
Mais est-ce que pour les paysans français du moment de la Révolution, il y avait, comme il peut y avoir pour les individus actuellement, une modification tangible du climat par rapport à ce qu'ils avaient connu ou ce que l'habitude...
C'est ce qu'ils n'arrêtent pas d'invoquer, en gros. C'est, par exemple, dans le sud de la France, les oliviers gèlent à plusieurs reprises dans les années 1780, dans les années 1820. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, pas forcément pour un paysan, mais pour un propriétaire foncier. En gros... La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de replanter des oliviers, sachant que ça met 25 ans à devenir productif. Donc c'est une énorme question d'économie politique, quoi, cette question climat.
Et donc il y a l'idée que vraiment le climat peut changer, qui était très clair à ce moment-là.
Oui, très clair. On a un bouquin qui va sortir là-dessus avec Fabien Locher, qui fait vraiment le point là-dessus. Je pourrais en parler très longtemps, mais on veut revenir au truc d'effondrement.
Parce qu'il y a une autre source, j'ai l'impression que... Donc, là, tu as parlé de la redécouverte des ruines de Palmyre, donc des civilisations antiques qui ont disparu. Est-ce que l'île de Pâques est découverte à ce moment-là ?
Alors, l'île de Pâques...
Parce qu'elle est dans la mythologie, l'absologique, elle est très très forte, cette île. Dans les civilisations disparues, il y a celle-là aussi.
Il faudrait que je regarde plus précisément. Je sais que dans les années 1760, il y a un voyage... Enfin, il y a des explorateurs qui arrivent à l'île de Pâques. Et d'une manière générale, l'île de Pâques est une figure centrale dans l'imaginaire collapsologique. Un livre collectif qui s'appelle Questioning Collapse, qui a été piloté par McAfee, il y a un article dedans qui explique que en fait, c'est surtout un choc écologique. C'est pas tant les habitants de l'île de Pâques qui étaient bêtes et qui ont coupé jusqu'aux dernières armes, qu'en gros, des Européens qui sont arrivés avec je sais plus trop quelle bête qui a bouffé graines des arbres qui poussaient sur place.
Quoi. Comme en Australie, quoi.
Voilà, exactement. C'est un choc écologique plus qu'un effondrement autoproduit endogène, quoi.
Ouais. Et l'autre chose, donc au-delà des civilisations, on va dire, perdues, il y a aussi dans le contexte colonial de ces moments-là, il y a déjà des catastrophes écologiques dans les îles, dans les îles colonisées que sont l'île de la Réunion. Il y a déjà des idées.
Alors, ça, c'était la thèse de Richard Grove, qui en fait qu'on discute beaucoup, qui me semble assez problématique.
Ah d'accord.
En gros, effectivement, il y a un gars qui s'appelle Pierre Poivre.
Peut-être je le dis en deux mots quand même pour expliquer de quoi je parle. C'est que un livre qui s'appelle Green Imperialism, dans lequel la première colonisation, qui est une colonisation insulaire de plantation de canne à sucre, est un désastre écologique. Ça, pour le coup, c'est quand même assez acté. Et donc, l'hypothèse de l'auteur, c'est que ces îles seraient comme des laboratoires de la prise de conscience environnementale qu'on ne peut pas tout faire et que si on coupe, notamment si on coupe toutes les forêts, on va à la catastrophe.
Alors, plusieurs remarques. Premièrement, il y a des alertes bien plus précoces sur le continent. Donc, l'île n'est pas particulièrement un laboratoire. Deuxièmement, sur une île, en fait, les arbres ont un beaucoup moins grand rôle météorologique sur les précipitations qu'en climat continental. Parce qu'il y a tellement de vapeurs d'eau qui viennent des océans que l'île n'est pas un laboratoire écologique naturel. Troisièmement, le truc de Grove, c'était centré sur l'île Maurice, en gros, l'île de France à l'époque. Et Pierre Poivre, qui est présenté comme le fondateur quasiment de l'écologie en 1760, en fait, il explique dans sa correspondance au ministre qu'il y a encore énormément de forêts sur l'île Maurice. C'est vrai qu'il y a encore trois quarts encore de forêts. Et Pierre Poivre, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est défendre au maximum les forêts parce qu'il veut faire de l'île Maurice une sorte de base arrière pour l'armée française pour reconquérir l'Inde et même conquérir la Chine.
Donc, elle a besoin de bois.
Donc, elle a besoin de beaucoup de bois parce qu'il faut armer des escadres, il faut faire beaucoup de matériaux de guerre, etc. Ça nécessite beaucoup de bois. Donc, l'idée, c'était plutôt, une fois encore, d'utiliser la menace d'un effondrement comme un moyen de gouverner des colons français qui voulaient effectivement continuer à étendre leur culture. Quoi.
Donc là, on est... En fait, c'est dans les deux exemples qu'on donne à la fois donc, sur le continent et dans les îles, quand même, la centralité de la forêt, à la fois comme ressource et comme ressource qu'il faut protéger de ceux qui en ont l'usage. C'est
exactement.
Deux choses qui sont quand même centrales dans cette question écologique du moment.
Exactement.
Peut-être on s'écoute Dibali et puis on passe à la suite.
The present.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie. Bon, donc on était en train de parler un peu de la branche française, on va dire, très axée sur la forêt et sur la gestion des forêts qu'il faudrait prémunir des usages paysans. Et cette fois-ci, on va aller du côté de l'Angleterre avec une théorie, pour le coup, beaucoup plus connue et qui a des ramifications beaucoup plus... un devenir beaucoup plus contemporain, qui sont les théories de Malthus sur la population. Alors, on en a une certaine vulgate. C'est beaucoup plus compliqué que sa vulgate, j'ai l'impression. Et surtout, ça correspond un peu à un air du temps des élites à ce moment-là, Malthus, et qui est très axé non plus sur la peur des paysans, mais sur la peur des pauvres.
C'est-à-dire, en fait, je crois qu'on a tendance à sous-estimer l'importance du néo-malthusianisme du XXe siècle, dans la façon dont les problèmes environnementaux ont été cadrés, actuellement.
Même maintenant.
Je vais vous donner simplement quelques exemples, mais James Lovelock, par exemple, figure emblématique de la crise climatique, le fondateur de la théorie Gaïa, de la sympathique théorie Gaïa. James Lovelock, c'est un bon vieux néo-malthusien anglais. Il explique, par exemple, récemment, que ce qu'il faut faire, c'est des oasis climatiques. Et ces oasis climatiques, c'est en fait des lieux qui vont être défendus, y compris militairement, face au chaos climatique à venir. Il explique qu'il faut réduire la population à 1 milliard d'habitants sur la planète pour arriver à un équilibre climatique. Donc l'effondrement, si vous voulez, c'est là où ça devient très préoccupant. C'est que la théorie de l'effondrement, parce que Lovelock, c'est un théoricien de l'effondrement au départ, la théorie de l'effondrement, c'est héritier directement de ces angoisses malthusiennes. Un autre exemple qui me semble frappant, dans les années 90, quand justement la question du changement climatique commence à débarquer dans l'espace public, dans l'espace médiatique, on voit très bien comment, et en Angleterre et aux États-Unis, c'est accaparé par des penseurs malthusiens, qui sont souvent proches aussi, je parlais de sécurité et d'oasis climatique, qui sont souvent assez proches des questions de sécurité nationale. Dans les années 90, les premiers rapports sur les premiers scénarios du GIEC inspirent d'autres scénarios écrits par des think tanks proches du Pentagone, proches de la défense américaine, qui expliquent qu'est-ce que ça va être le changement climatique en termes de sécurité nationale. Et de suite, c'est la question de l'effondrement qui émerge. Et la question de l'effondrement, c'est la question de l'effondrement des pays pauvres et de ces hordes de réfugiés climatiques qui vont débarquer sur nos territoires.
Parce que, donc là... D'une, il y a deux choses. C'est que dans ces théories, on va dire, malthusiennes et néo-malthusiennes de surpopulation et de surpopulation de pauvres, d'une certaine façon, où est l'effondrement là-dedans ? Enfin, c'est-à-dire que quel est le risque donc c'est une question de pullulation, d'une certaine façon. C'est quoi le risque ? C'est un risque de pénurie ? C'est un risque d'envahissement ? Enfin, comment ça se formule, ces choses-là, à ce moment-là et maintenant, et du coup,
en gros, réchauffement climatique plus manque de ressources, ça implique guerre civile, mégalopole ingérable, déplacement de population massif, et puis grand remplacement en Europe de l'Ouest et en Amérique. C'est comme ça que ça se formule, de manière tout simple et bête. C'est vraiment les fantasmes racistes les plus éculés qui sont réactivés par la façon dont on a pensé le changement climatique dans les années 90, dans ces cénacles-là. C'est ça le problème. Et eux, ils pensent vraiment ça en termes d'effondrement. Et d'une manière générale, l'effondrement, ça nourrit des affects assez, à mon avis, très conservateurs, en fait, de protection de soi, de protection de la petite communauté, etc. C'est exactement James Lovelock, en disant qu'il faut qu'on fasse un petit oasis climatique. Et comme par hasard, l'oasis climatique, ça va être quoi ? Ça va être l'Angleterre, évidemment.
Ces craintes du réfugié climatique, je crois, c'est pour 2050, je crois qu'il y avait des prévisions du GIEC dramatique, 250 millions.
Alors, c'est pas le GIEC, ça c'est important, c'est pas le GIEC. D'accord, j'ai un peu travaillé là-dessus. Norman Myers. Donc c'est un ancien administrateur colonial au Kenya, anglais aussi, qui devient un grand biologiste important et qui fait ses premières prédictions de 250 millions en 2050. Il faisait déjà des prédictions de 50 millions en 2010 qui ne sont absolument pas avérées. L'ONU a été très gênée parce que c'était l'ONU qui avait fait ses... Enfin, il avait demandé à Norman Myers de faire ses rapports. Ils ont été obligés de se dédire en 2011, d'ailleurs. Donc, ce Norman Myers, c'est intéressant parce qu'on peut penser que c'est un scientifique sérieux, etc. Mais ses prédictions reposent sur pas grand-chose. En fait, ça a été très critiqué par les vrais démographes qui pensent qu'en fait, le réchauffement climatique, ça pourrait en fait réduire les flux migratoires. Puisque le réchauffement climatique, ça va appauvrir en fait tout un tas de pays où il y a beaucoup d'agriculture vivrière. Et en vérité, c'est plutôt les riches qui peuvent migrer de manière internationale. Donc, en fait, on sait pas, les démographes sérieux ne sont pas... sont très sceptiques de cette question de réfugiés climatiques.
Et justement, en quoi les sociétés riches occidentales sont menacées par des migrations, par exemple, de paysans du Bangladesh qui iront en Inde ou resteront dans les régions touchées?
Déjà, l'essentiel ce qu'on appelle de migrants environnementaux, même si ça reste problématique, c'est des migrations qui sont internes au pays. C'est en fait un exode rural, concrètement. Et puis surtout, moi, ce que je trouve très triste, c'est comment la figure du réfugié climatique devient la manière de sensibiliser les gens à la question du changement climatique, avec comme sous-entendu hyper nauséabond que c'est une menace. Enfin, je veux dire, on chasse sur les terres du Front National, en vérité. D'ailleurs, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement actuel, il y a 2 jours, avait expliqué que, texto, dans le futur, il va y avoir un réchauffement climatique, il y aura donc des grandes vagues de migration, et il faut armer la France face à cette menace. Bon. Donc on voit bien comment le réchauffement climatique peut devenir, pour un gouvernement de droite, une manière d'avoir une politique de migration de droite, de chasser une fois encore de braconner sur les terres du Front National, en se donnant une image de mec qui pense, enfin de femme en l'occurrence, qui pense à long terme, des questions globales, de changement climatique, etc. Donc tout ça, et ça, c'est à mon avis dans une perspective. Enfin, l'effondrement participe de ce paradigme-là, participe de cette ambiance-là extrêmement délétère.
Parce que si. C'est étrange comment, du coup, l'effondrement, d'une certaine façon, il va pas être en Europe. C'est ça il serait secondairement en Europe. Et du coup, c'est drôle comment, presque, d'une certaine façon, mais on retrouve ça avec le malthusianisme, où en fait, c'est une question. Le problème, c'est les pauvres. C'est qu'en fait, c'est toujours ce problème que l'écologie, il faudra régler ces questions-là en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Nous, ça va. Par contre, on pourra en avoir les conséquences.
Alors, je pense qu'il y a 2 trucs. C'est qu'en fait, l'effondrement, il y a cette branche malthusienne. Il y a une autre branche qui est assez proche du malthusianisme. C'est un petit peu différent. C'est la branche du pic du pétrole. C'est le rapport au Club de Rome, 1972, etc., qui est hyper importante dans la manière dont l'effondrement est arrivé en France. Parce que c'est Yves Cochet, qui était un grand promoteur du pic du pétrole. En 2008, il a écrit un livre qui s'appelle Pétrole Apocalypse, où il expliquait, enfin, c'était pas dans le livre, mais dans les entretiens, il expliquait qu'en 2012, il n'y aurait pas les Jeux Olympiques à Londres parce qu'il n'y aurait plus de pétrole. Bon. Le problème, c'est qu'il y a trop de pétrole, il y a trop de matières fossiles. C'est ça le problème pour le climat. Donc, cette question du pic du pétrole, effectivement, est une menace pour les pays riches. Puisque eux, ils consomment beaucoup de pétrole et notre infrastructure, notre économie dépend beaucoup du pétrole.
Je crois qu'avec les pétroles et gaz non conventionnels, là, il me semble que récemment, on s'est rendu compte que les réserves disponibles étaient, pour peu qu'on détruise encore un peu plus l'environnement, on était plutôt sur un plateau que sur une descente.
Ouais. Surtout, il y a tellement de réserves fossiles qu'on pourrait bousiller le climat plusieurs fois. C'est ça le problème, c'est que les ressources sont trop importantes par rapport au climat. Et donc, cette branche-là de la collapsologie, effectivement, elle se centre sur les pays riches. Le problème, c'est qu'ils ont voulu projeter cette vision d'un effondrement parce qu'on est à bout de ressources fossiles et de carburant sur la question du changement climatique, qui est effectivement très différente. Parce que la question du changement climatique, à première vue, ça pourrait avoir un effet, c'est d'augmenter le prix des matières agricoles. Parce que pour plein de raisons, la culture est plus compliquée, etc. Bon. Si ça arrive, ça concerne d'abord les pays pauvres et les pauvres des pays pauvres. Ça va faire des émeutes de la faim, etc. Ouais. C'est ça que ça fait concrètement. Et les pays riches, en tout cas les classes moyennes des pays riches, sont relativement immunes sur ces questions-là. Quoi. Donc c'est pour ça que le problème de la collapsologie, je pense que c'est une écologie de riches, en fait. C'est-à-dire on projette un problème de riches qui est le pic du pétrole sur le changement climatique, qui est très différent, qui est une question de sous-développement, en vérité, principalement.
Parce qu'il y a l'autre chose qui est... dans la question, comme tu dis, des ressources, c'est aussi, je trouve, beaucoup de naturaliser la question des ressources, de la production des ressources, alors qu'on sait qu'elles sont intégralement intégrées dans l'économie, en fait, dans l'économie capitaliste mondiale, et qu'en fait, les dernières émeutes de la faim qu'il y a eu il y a un peu moins de 10 ans, les traders n'y étaient pas pour rien. Enfin, c'est que penser que aussi, enfin, ça reprend un peu le thème que si l'Afrique a faim, c'est parce qu'il n'y a pas assez à manger.
Oui, mais c'est bien sûr. En général, il y a une réflexion très mécaniste sur climat, environnement, récolte, société, ça c'est sûr. En fait, évidemment, Amartya Sen a bien montré que les famines sont à chaque fois des constructions, des mauvaises constructions sociales, en gros. Oui. C'est un problème de mauvaise répartition. Essentiellement.
Il y a peut-être un autre élément du néo-malthusianisme, car là, pour le coup, peut-être encore presque plus malthusianiste que néo-malthusianiste, c'est celle de la maternité. Et que c'est toujours, d'une certaine façon, une façon de prendre soin de l'environnement serait d'éduquer les femmes en Afrique et en Asie et en Amérique du Sud de façon à éviter une certaine surpopulation et que s'ils étaient moins nombreux, ils auraient, enfin, un truc un peu comme ça, mmh. et que c'est des, c'est un peu un va-et-vient entre population et ressources comme ça, mmh. et que d'une certaine façon, il va falloir gérer ces personnes-là, et y compris gérer donc les femmes. C'est souvent, c'est aussi souvent sur elles que ça
c'est
tombe.
Souvent enfin, un discours voilà. d'homme blanc sur, voilà. sur des femmes noires hein, en général, le malthusianisme. Enfin, globalement, mmh. ça a été ça.
Ouais. Pour le les autres éléments de donc de l'effondrement, comme on vient de dire, bon, le problème de ça, c'est que d'une certaine façon, c'est étrange comme plus on avance dans ces discussions, en fait, plus on est parti d'une certaine façon un peu loin de des considérations écologiques de base. C'est-à-dire que là, on n'a plus parlé, par exemple, on a parlé d'effondrement. Et en parlant de ça, on a parlé d'effondrement de société et pas d'effondrement de l'environnement. C'est-à-dire qu'on a réussi à parler pendant une demi-heure sans parler de l'effondrement des espèces, par exemple, qui sont des vrais effondrements ça, vrais écologiques. Effondrements, et alors, est-ce que c'est une nouveauté à savoir que la question de l'effondrement est d'abord une question d'effondrement de la société? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment des questions d'effondrement environnementaux qui étaient déjà là et qui ont été masquées par ça?
Alors, il y a les deux. C'est-à-dire, il y a l'idée d'effondrement climatique et social, comme je vous ai dit pendant la Révolution française, c'est très net. Il y a aussi l'idée d'effondrement de la nature. Alors, c'est pas vraiment des effondrements que des basculements brusques. Toujours dans la théologie naturelle, en gros, dans cette vision créationniste de la nature, il y a cette idée que la nature, c'est quelque chose qui est étroitement connecté. Tout est en relation avec tout, et quand on touche quelque chose, ça a des répercussions sur l'ensemble de la nature. Et je ne sais pas, Linné, par exemple, le grand naturaliste du 8e siècle, n'a aucun mal à expliquer que s'il manquait une espèce de ver de terre, c'est toute la nature qui serait en fait sans dessus-dessous. Donc cette idée de quelque chose où il y aurait des sortes de tipping points, j'aimerais dire, c'est quelque chose d'assez ancien qui est lié à cette vision assez écosystémique, en fait, hein, concrètement, de la nature dans ce cadre créationniste qu'on a complètement oublié de nos jours, mais qui, en fait, est encore très présent dans l'imaginaire de la nature. Donc, il y a les deux. Mais alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que la façon dont l'effondrement est posé maintenant, c'est l'effondrement des grandes infrastructures des pays riches. Mmh. De fait, c'est ça qui nous inquiète. C'est on va manquer d'eau, on va manquer de pétrole. Moi, ce qui me pose problème avec la collapsologie, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de focalisation sur la seconde nature, sur cette nature qui nous fait vivre, qu'on a créé toutes ces infrastructures, plus que sur la première nature qui, elle, est véritablement en train de s'effondrer. D'une certaine manière, l'effondrement a déjà eu lieu. Oui. Enfin, on arrive trop tard, quoi. C'est-à-dire... Enfin, il y a des chiffres absolument alarmants sur la disparition des insectes. Trois quarts des insectes en Europe de l'Ouest auraient disparu dans les 30 dernières années en population d'insectes. Donc, on est sur... Moi, ce qui m'inquiète de la collapsologie, c'est cette prédiction à moyen terme de l'effondrement 2030, 2040, je ne sais quoi, nous rend aveugles sur tous les effondrements en cours ou déjà largement advenus.
Et le terme effondrement lui-même me semble poser problème, puisque c'est pas, on a l'impression, à écouter les discours collapsologues, que ça s'effondre, il y a des choses qui s'effondrent. L'effondrement, l'apostrophe, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. Mais si quelque chose s'effondre, c'est que quelque chose le détruit. Et qui détruit qui, ça permet pour moi d'évincer un peu la question de qui est responsable de cet état de fait.
Ça, je ne sais pas si... en tout cas, dans les livres récents là, de Servigne, Stevens et compagnie, c'est assez clair sur ce qui détruit, même si ce n'est pas très précisé. C'est le capitalisme, c'est ce genre de choses quand même. Enfin, on a quand même on peut faire ça, mais je pense surtout que c'est la question de se focaliser sur l'humain. C'est hyper anthropocentré, en fait, comme écologie. Moi, ça qui me frappe. Alors que il y avait deux intérêts, je trouvais, politiques dans l'écologie. C'était un, ça nous ouvrait sur d'autres choses que les humains, qui est quand même important. La planète, elle n'est pas que pour nous. Et deux, c'était le long terme. Il faut penser le long terme. Et dans la collapsologie, c'est une régression sur ces deux lignes-là. Ouais. On repense de nouveau les conséquences uniquement humaines. Et puis, c'est très court-termiste. Parce que si on dit l'effondrement a lieu en 2020 ou 2030, je ne sais pas comment on fait de la politique avec ça.
Non,
objectivement.
Bien sûr. Franchement, oui. Alors, justement, c'est peut-être une des conséquences, on va dire, de cette façon de poser le problème. Moi, j'ai toujours embêté de dire qu'elle dépolitise, parce que je crois que les formulations dépolitisantes sont très politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle elle empêche, je crois assez largement, de poser ces questions collectivement. C'est que s'il y a un effondrement, il va, enfin, je sais pas, c'est l'effondrement est aussi l'effondrement de la politique. Je crois qu'il y a un peu de cet ordre là.
Tu vois, s'il y a un truc qui s'effondrera d'abord, c'est d'abord les questions, effectivement, la démocratie, ce genre de choses. Enfin, c'est plutôt ça le risque.
Et aussi parce que le Peut-être la question qui est reposée, c'est que c'était la question, comme tu dis, de les natures, enfin, entre la relation entre société et nature, et qui là se repose. D'une certaine façon, il va bien falloir survivre, mais à une petite échelle. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas gérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, faire les alliances nécessaires, telles que là, c'est formulé maintenant par les écologistes radicaux, mais plutôt presque de nouveau une gestion un peu court-termiste d'une nature qui, il va falloir survivre. Quoi. Et du coup, ça nous empêche, d'une certaine façon, là, de penser maintenant à protéger la nature, puisque c'est enfin, je sais pas si tu vois, c'est trop tard. Et du coup, il s'agit plus vraiment de protéger la nature. En fait, il faut presque maintenant faire des stocks. Presque. Enfin, il y a presque des trucs de cet ordre-là que presque, c'est d'une certaine façon, en fait, étrangement, la fin de l'écologie, en fait, la fin de l'écologie politique. Je sais pas comment tu le.
Mais c'est très dangereux pour l'écologie politique, une écologie politique de gauche en tout cas, parce qu'une écologie politique de droite a aucun mal avec l'effondrement. Au contraire, c'est parfaitement adéquat. En gros, c'est il faut se protéger, il faut protéger la communauté, la petite tribu autour de nous. Et si vraiment l'enjeu c'est que la population mondiale va être divisée par deux ou trois, il y a plein de choses qui deviennent permis. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est aussi, ça désinhibe.
C'est le mythe survivaliste.
Ça désinhibe sur le côté, il faut qu'on se protège. On va, je sais pas, armer la Méditerranée. On va faire des murs au sud des États-Unis. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi faire beaucoup de nucléaire, parce que si vraiment l'enjeu, c'est qu'il y a un effondrement énergétique et que l'effondrement énergétique va diviser par deux la population française, ben, moi, ça me rend presque pro-nucléaire. Quoi. Enfin, je veux dire, si l'enjeu, c'est ça, c'est voilà. C'est ce que nous explique Yves Cochet, quand même. Hein. C'est qu'avec le pic du pétrole, on va perdre la moitié de la population en quelques années. Quoi. Donc, c'est très, très flippant. Et puis, ça, à mon avis, c'est aussi une manière, avec ce thème de l'effondrement, de préparer le terrain à la géo-ingénierie. C'est-à-dire à l'idée de les enjeux sont tels... Hein, qu'on ne peut pas tolérer ça, et donc on a une solution technique. Et donc ça va être aller envoyer de je ne sais pas trop quoi dans la haute atmosphère pour envoyer une partie de l'énergie solaire, une vision complètement démentielle, technicienne, solutionniste de la question environnementale.
Et que du coup, la solution ne viendra pas, on va dire, politiquement, démocratiquement, d'une sorte de discussion sur les pratiques et notre rapport qu'on a à la nature, mais de façon technocratique, d'une certaine façon, d'une solution qui sera apportée par la technologie. Il y a une croyance technologique. Enfin, j'arrive pas très bien. Je suis toujours un peu embêté dans la collapsologie entre d'un côté, on est là parce que il y a eu quand même le capitalisme. C'est pas forcément formulé comme ça, mais en tout cas la civilisation par la technologie, notamment par la consommation de pétrole, a créé ces conditions-là. Et en même temps, il va bien falloir avoir recours à la technique.
Alors il y a de tout en fait. C'est-à-dire il y a des effondrementistes qui vont être pro-géo-ingénierie. Par exemple, le discours de l'Anthropocène, il est promu par des gens qui défendent des solutions technologiques et des géo-ingénierie.
Ce qui n'était pas attendu au début.
Ils ont fait la croix sur l'idée qu'on va trouver une solution politique à la question. Je crois que c'est ça. Et les effondrementistes, c'est pareil. En gros, on fait la croix sur l'idée, mais peut-être qu'ils ont raison. Hein, c'est peut-être triste, mais ils ont peut-être raison. Quoi. Que politiquement, collectivement, on va réussir à s'auto-limiter dans nos consommations, etc. C'est ça, en fait, la base de l'effondrement, je pense.
Il y a même des théories cogniticiennes qui disent que, de toute façon, presque intrinsèquement, biologiquement, l'homme est impossible de penser ces questions collectivement. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais il y a aussi un discours comme ça, assez, en presque, d'une certaine façon, scientifique, qui démontrerait scientifiquement qu'on est incapable de gérer ces problèmes-là, quoi. En fait, on ne pourra pas se mettre d'accord, parce que biologiquement, on n'est pas prévu pour ça. C'est assez hallucinant. Encore une fois, on retrouve toutes ces naturalisations comme ça par les théories scientifiques d'une situation donnée, qui profite évidemment à certains.
Oui, non, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire.
Peut-être on se remet une petite musique et puis on va clore.
I close my eyes till I see neon jungles, and suddenly everything's green around me. I close my eyes till there's no one around, every face that I've known simply gone, long gone, when out of sight. No love can last when out. Stop! will take me places out in the blue morning, planets in bloom, all their dawning and reasonable speed and grace when out of sight. No.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie et nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Fressos et on est en train de parler de collapsologie et d'effondrement. Alors, on a un moment où on a évoqué le fait que ces questions étaient aussi pensées par les militaires, à la fois maintenant mais aussi avant, en fait, ce qu'on a appelé la prise de conscience environnementale, qui pour nous, on le date un peu comme ça, dans la conscience collective, dans à peu près le moment 68. En fait, il se trouve que c'est un enjeu qui est un peu plus ancien et que en fait, les militaires ont pensé la question plusieurs décennies avant, notamment lors de la guerre froide où on sait que... On se rend compte que le terrain militaire, ça va être un grand terrain et que le contrôle climatique de ces espaces-là va être extrêmement important. Donc, il y a quand même déjà des études d'ingénierie climatique, en fait, qui sont d'abord des techniques militaires. Et alors, je ne sais pas si tu peux nous le dater. Enfin, deux mots sur ça.
Pour dire les choses simplement, les premiers à. En parlant. Avant de revenir sur l'événement, parlons encore un petit peu d'effondrement. Les grands spécialistes de l'effondrement, c'est les généraux. Parce que c'est eux qui pensent comment faire effondrer une économie de l'ennemi. Et c'est surtout au moment où il y a les bombardiers qui apparaissent, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, les stratèges américains de l'US Air Force embauchent des économistes, des industriels, des logisticiens, même des sociologues, pour essayer de comprendre où, c'est quoi les points sensibles de l'économie ennemie. Est-ce qu'il faut bombarder, je ne sais pas moi, les ponts ou bien les usines de carburant chimique voilà, on réfléchit à ce que c'est, qu'est-ce qui fait tenir un système industriel, un système économique. Donc eux, ils veulent vraiment produire un collapse de l'ennemi. Donc ça, c'est la décennie 30, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à partir des années 1950, c'est en particulier avec l'arrivée de la bombe H, où on a un moyen d'agir sur l'environnement qui est absolument colossal, il y a l'idée de dire on va produire un effondrement environnemental de l'ennemi. C'est ce que Gordon MacDonald, un géophysicien de l'Université de Californie, appelle la guerre géophysique. Et la guerre géophysique, c'est repérer dans le système Terre ce qu'il appelle les points de bascule, en gros les points sensibles où en agissant, en faisant péter une bombe nucléaire, on produit en fait des basculements. Alors ça par exemple être un truc classique, c'est les lignes sismiques, les lignes de faille. Est-ce qu'on peut déclencher des tremblements de terre en faisant exploser des bombes nucléaires ici? Mais ça va être aussi, est-ce qu'on pourrait pas trouer la couche d'ozone à certains endroits stratégiques en envoyant du brome ou je sais pas trop quel produit chimique pour envoyer plein de rayons ultraviolets sur l'URSS. Et c'est aussi dans ce contexte-là donc, qu'émerge cette notion d'un système Terre où il y a des points de bascule qui est central dans la collapsologie actuelle. Mmh. Donc toute la théorie des systèmes, la théorie des systèmes, la théorie du chaos, c'est une science de la guerre froide, qui sert d'abord à guider des canons, à gérer des champs de bataille, à gérer de la logistique, etc., qui va être appliquée au système Terre qui est pensé dans ce formalisme-là, la théorie générale des systèmes. Donc d'une certaine manière, il faut voir à quel point les scientifiques de la guerre froide ont cadré la question environnementale d'une certaine manière, en termes de la Terre comme un système, et qu'on peut mettre en équation, modéliser, etc., et à quel point l'écologie hérite de ça. Alors, il s'avère que ce n'est plus les mêmes, c'est-à-dire, dans les années 50, c'est John von Neumann, des gens comme ça, Jay Forrester, qui est hyper important. Jay Forrester, c'est la personne qui invente l'ordinateur. Donc c'est quand même un truc très important.
Donc on est chez des cyberneticiens, là, en fait.
On est chez cyberneticiens. C'est clairement quelqu'un qui travaille pour l'US Air Force, il travaille pour des simulateurs de vol, il travaille pour le programme SAGE, qui était un truc pour envoyer des bombardiers, des chasseurs, pardon, détruire les bombardiers russes si jamais ils voulaient bombarder le territoire américain. Donc, il utilise l'ordinateur pour ça. Et il va utiliser l'ordinateur pour le Club de Rome. Donc, c'est vraiment ce milieu-là. Alors, évidemment, il y a un changement de génération, c'est-à-dire les Shailen Huber et autres qui théorisent, qui remettent en étude le système Terre dans les années 80. Ce n'est pas les mêmes, mais ils héritent quand même de ces formalismes et de ces méthodes. D'accord. C'est pour ça que, à mon avis, la théorie de l'effondrement est vraiment héritière de ce moment de la guerre froide.
Là, on a parlé de techniques qui ont l'air un peu hallucinantes. Enfin, c'est-à-dire que dit maintenant, c'est fou de se dire que des gens ont vraiment cru qu'ils allaient créer des tremblements de terre. Enfin,
c'est pas qu'ils le croyaient, c'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire et ils pensaient pouvoir le faire. Je veux dire, c'est des gens qui sont au plus. Enfin, c'est pas des uberlus, quoi. On parle de gens qui sont ce Gordon McDonald là qui a écrit un article qui s'appelle How to Wreck the Environment, comment détruire l'environnement. Mais en termes positifs, quoi. C'est-à-dire comment on fait techniquement pour détruire l'environnement de l'ennemi, c'est ça la question. C'est un texte des années 1960, il est conseillé à la Maison Blanche, etc. C'est vraiment les savants les plus à la pointe. Hein. John von Neumann, c'est quand même le père fondateur de la cybernétique, etc. Donc on ne parle pas d'inconnus, quoi.
Et bien, bon, ça a été appliqué peut-être d'une façon beaucoup moins technologique, mais beaucoup plus, en tout cas assez efficace. Ça leur a pas fait gagner, mais c'est que la guerre du Vietnam, c'est une guerre de, on balance du défoliant partout. Mm-hmm. Le but, c'est en gros une terre de feu,
de détruire l'environnement.
Rase, mais bon, c'est vrai que à part ça, celle-ci est un peu connue, les considérations géophysiques le sont un peu moins.
Alors ça, c'est un bouquin de Jacob Amblin qui s'appelle Arming Modern Nature, qui fait exactement cet argument. C'est un bouquin qui est vachement intéressant sur finalement pourquoi c'est cette vision de l'effondrement et de la catastrophe brutale qui s'impose dans l'imaginaire, sachant que le changement climatique, c'est plutôt une violence lente, une persécution faite des pays riches sur les pays pauvres qui s'exercent sur le long et moyen terme. Et pourquoi c'est cette vision du basculement de la catastrophe assez hollywoodienne finalement qui s'impose dans l'imaginaire? Et il dit, lui, c'est vraiment lié à cette science de la guerre froide.
Ces trucs, en fait, on les retrouve. Je ne sais pas si vous avez entendu que pour les Jeux Olympiques ou je ne sais quel, ils prévoient qu'il ne pleuvra pas, puisqu'ils vont faire le nécessaire pour faire tomber la pluie avant. Enfin, on retrouve un peu ces considérations. Alors, bien sûr,
pour la GIO de Pékin, il me semble qu'il y a eu des soupçons de géo-ingénierie pour avoir des beaux temps à l'ouverture.
Bon, alors, donc ça, c'était un peu l'origine un peu militaire de l'environnement, qui est évidemment pensé par les militaires comme un champ de bataille, stratégique, aussi économique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une économie militaire. Et on retrouve un peu de ces éléments-là dans la collapsologie contemporaine et justement un peu sur le resserrement territorial comme ça qu'on a du mal à penser l'effondrement sans penser que les militaires vont devoir gérer le problème. Enfin, et on a toujours ces imaginaires de l'armée est envoyée quelque part pour refaire face à une catastrophe.
Bah,
quoi.
Ça, c'est à cause d'Hollywood, hein, principalement. Enfin, je pense que ça joue aussi un rôle important.
Ah bah, probablement, ouais. Oui. Mais j'ai l'impression que vu qu'il est largement question d'imaginaire aussi dans ces questions-là, c'est ce que tu disais à un moment, qui est que, toi, tu me l'as dit avant de préparer l'émission, que la colère absolue, c'est pas tant une histoire qu'un discours. Et qu'évidemment, les imaginaires sont évidemment centraux là-dedans. C'est-à-dire que si on n'a pas en tête ce que peut être une horde de migrants qui arriverait, parce qu'on a finalement les images limites des zombies dans des films hollywoodiens, on peut pas se le figurer. Enfin, il y a quelque chose de ça dans ce rôle-là qui renvoie à un imaginaire qui n'a rien de réel. Enfin,
Moi, je pense qu'il faut bien faire attention. C'est-à-dire, on a d'une part un constat dramatique sur l'effondrement de la biodiversité, sur les 1400 milliards de tonnes de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère qui vont faire plus 3, plus 4 degrés à l'horizon 2100. Ça va avoir tout plein de conséquences extrêmement complexes, extrêmement inégal au niveau global entre les riches, les pauvres, les géographies, etc. Ça enclenche une somme de processus très compliqués, très dangereuses aussi, je ne dis pas le contraire. Moi, ce qui m'attriste, c'est que le récit de l'effondrement, qui est hyper simpliste, qui est complètement éculé, qui hérite aussi du romantisme des ruines, ça, on n'en a pas parlé, mais qui charrie tout plein de choses assez rances, ce qui m'inquiète, et je trouve dommage, c'est ce récit-là qui l'emporte, alors que le changement climatique... Ça devrait être plutôt des questions de développement, des questions d'aide internationale. C'est ça que ça devrait stimuler, pas le repli sur soi et l'effondrement. Voilà.
Oui, vas-y.
Peut-être que c'est un discours plus facile, qu'on entend plus facilement. C'est l'effondrement qui nous est présenté, c'est les dominos qui tombent les uns après les autres. Et c'est les différents piliers de la société industrielle qui se cassent les uns après les autres. Comme s'il n'y avait pas possibilité d'avoir un autre type de société que la société capitaliste industrielle. Et en fait, pour nous faire peur, pour au final nous faire protéger de cette société ou nous faire aimer ce qu'on a encore de...
Alors moi, je ne veux pas accuser, je ne sais pas si c'est uniquement ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un effet mobilisation et il y a plein de jeunes qui arrivent à l'écologie. Ça, je vois bien dans mes conférences, il y a plein de jeunes qui arrivent à l'écologie parce qu'ils sont paniqués par l'effondrement, en fait. Alors que c'est des jeunes de classe moyenne supérieure qui vont se taper des conférences assez sérieuses d'histoire et ça. Donc, a priori, c'est pas des gens qui sont directement concernés par ces questions-là, quoi. Et donc, je pense que ça peut aussi susciter de la mobilisation. C'est pour ça que je veux pas être non plus entièrement... Mais je dis simplement, faut faire gaffe. L'effondrement, si en France, on a plutôt une collapsologie de gauche grâce à Yves Cochet, principalement, et Pablo Servigne, Raphaël Stevens. Globalement, la collapsologie, à mon avis, ça nourrit plutôt des affects de droite, des affects très conservateurs, des affects de défense de la communauté, etc., qui sont très dangereux politiquement. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que pour le coup, ce que tu as dit là de la prise de position du gouvernement et son resserrement réactionnaire contre l'immigration, le coup du réchauffement climatique, je ne m'y attendais pas. Enfin, c'est-à-dire que
tu t'y attendais pas, et en même temps, c'est depuis le début. C'est-à-dire la figure du réfugié climatique, elle est créée par Norman Myers.
Oui, oui.
Et donc, j'avais pas fini de parler de ce gars de Norman Myers. C'est aussi l'un des fondateurs de ce think tank néo-malthusien anglais en 1991, qui s'appelle donc The Optimum Population Trust, qui explique que, en gros, un des facteurs importants de croissance démographique en Angleterre, c'est l'immigration. Il y a beaucoup de migrants en Angleterre, d'Europe de l'Est, par exemple. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est arrêter, avoir une immigration zéro en Angleterre. Et donc c'est vraiment ça dès le départ, quoi. C'est-à-dire c'est faire peur au gouvernement, dans l'espace public, pour motiver dès maintenant des politiques d'immigration restrictive, alors qu'il n'y a pas le début du commencement d'un migrant climatique en Angleterre en 1991. C'est absurde.
Effectivement. Donc toi, là, dans ce discours-là, toi, tu dis que la xénophobie, elle est première.
Oui.
Et qu'en fait,
c'est
les choses soient bien mises dans le bon ordre, quoi.
Il y a un super article dans le New York Times sur une dame qui s'appelle Cordelia May, qui est l'héritière de la fortune de Mellon, d'une partie de la fortune Mellon, un grand industriel américain du XXe siècle. Et il montre bien comment cette dame a arrosé d'argent, mais on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, des think tanks. Elle a créé des tonnes de think tanks qui sont grassement financés et qui sont vraiment à la source maintenant de la politique migratoire restrictive de Donald Trump. C'est-à-dire les États-Unis, le mouvement anti-migratoire aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez marginal au départ. C'est des trucs assez d'extrême droite, etc. C'est devenu assez général dans le Parti républicain parce qu'il y a eu ces think tanks qui n'ont eu de cesse de mobiliser. Et cette Cordelia May, elle était environnementaliste, défenseuse de la nature, de la wilderness, des oiseaux, etc. Donc, enfin voilà, l'écologie, ça mène pas forcément des choses sympathiques. Il faut bien voir que ça va dans tous les sens, quoi. Mmh.
Mais peut-être, je sais pas à quel point les collapsologues réputés de gauche actuellement ne se posent pas la question que qu'une partie de leurs hypothèses d'effondrement sont actuellement largement récupérées. Ça ouais. devrait poser la question de l'essence politique un peu de ce qui est dit, même si a priori c'est pas de droite, en tout cas réactionnaire.
Bah, un bon exemple de ça, c'est l'éditeur d'extrême droite français qui s'appelle Le Retour aux Sources, qui publie des brûlots complotistes, survivalistes, hallucinants. Il a publié aussi le bouquin, qui n'est pas génial, mais bon, qui se veut un peu sérieux, de Joseph Tainter, The Collapse of Complex Society, l'effondrement des sociétés complexes. L'idée, c'est que ces sociétés deviennent trop compliquées, il y a trop de frais de gestion de la société, donc ça s'effondre. Bon, un truc très simpliste, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment un éditeur marginal d'extrême droite se rend compte que là, il y a une niche, enfin, il y a un levier d'action, de création d'imaginaire qui est très, très intéressant pour lui, quoi.
Mais du coup, là, peut-être, c'est un peu étrange, mais comme on a la pression, et c'est quelque chose qui est de plus en plus dit dans les médias, que l'écologie va devenir la nouvelle question centrale de la politique, enfin que chaque parti va devoir avoir un programme écolo, et que même le FN est désormais contraint un peu d'avoir une position sur l'écologie, ce qui complètement pour eux, normalement ils savent pas le faire, enfin voilà, et du coup qu'ils aillent puiser un peu là-dedans, c'est peut-être à nous aussi de poser vraiment, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ces émissions là, c'est que comment on peut s'assurer que on formule vraiment correctement les choses de façon à se prémunir de ce genre de choses, parce que enfin
le pire c'est que c'est assez facile, parce que par exemple l'obsession démographique, je veux dire, c'est très simple de la démonter, quoi. La démographie, elle a plutôt tendance à se stabiliser, en vérité. Enfin, en tout cas, la croissance a largement diminué. C'est évidemment pas... Les pays où il y a une forte croissance démographique, c'est pas eux qui émettent beaucoup de CO2. Les pays d'Afrique subsaharienne qui émettent très... il y a très peu d'augmentation du CO2. Par exemple, en Chine, par contre, il y a une très forte augmentation des émissions de CO2. La démographie est complètement plane.
C'est une augmentation du niveau de vie.
Elle décroît. Donc, la question, c'est évidemment les modes de consommation, les modes de transport, les modes d'industrialisation, etc. C'est ça, la question. Enfin, je veux dire, c'est très facile de démonter ça. Ça repose sur rien du tout, en fait.
Oui,
vas-y. Non, c'est facile de démonter ça, mais on a l'impression que dans la population, ce qui est retenu souvent par la conversation Café du Commerce sur l'écologie, c'est toutes les petites actions individuelles qu'il va falloir faire pour enrayer. Et ça me fait penser au livre là, de René Ryssel et Jaïm Semprin, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable.
C'est la meilleure critique de la collapsologie, écrite avant la collapsologie.
Oui, effectivement, qui date d'avant. Où c'est tout, finalement, c'est un outil merveilleux pour toute politique de soumission de la population, toute politique coercitive, que de faire intégrer par les gens en utilisant une menace réelle, visible et tangible, une soumission à manger, bouger, à trier.
Le seul truc qu'il faudrait aussi, alors je suis assez d'accord, ce livre est absolument génial et je vous conseille vraiment de le lire, c'est un pamphlet hyper bien écrit en plus. Après, je pense que la contrainte, il ne faut pas être, à mon avis, l'écologie pose quand même la question du gouvernement des conduites d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut contraindre. C'est-à-dire, moi, je n'aurais aucun mal à ce qu'on rationne, par exemple, les émissions de CO2individuellement. Il n'y a aucune raison que, parce qu'on a du fric, on puisse faire 4 fois le tour de la planète par an et consommer autant de CO2 qu'une vie d'un habitant pauvre. C'est très injuste. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas avoir une sorte de romantisme anarchiste sur ces questions, parce qu'il faut agir très vite. Oui. Malheureusement.
Mais justement, la question qui va se poser, c'est effectivement qu'on ait une régulation des. Que la question porte sur nos comportements et ce qu'on adopte, c'est évident. La question, c'est aussi de qui va décider et comment ça va être décidé.
C'est tout le problème de la taxe carbone et de l'inégalité sociale fondamentale. La solution de marché, c'est de dire on va augmenter, on pourrait faire des quotas qu'on va échanger. Bon, ça, c'est vraiment la solution la plus néolibérale. Après, on fait une taxe carbone. Ça peut sembler mieux parce que c'est des impôts qui rentrent, etc. Mais concrètement, la taxe carbone, ça a déjà fait réagir à quelques centimes, mais c'était prévu de monter beaucoup plus haut à horizon 2040. Donc ça reposait soit sur l'idée qu'il y aurait en fait des substituts non carbonés à tout ça, ce qui est très illusoire. Je suis historien de technique, ça me semble très illusoire du point de vue d'histoire technique, mais peu importe. Mais ça repose aussi sur le constat que les pauvres n'auront plus le droit d'utiliser les transports. Ça coûtera très très cher, en fait. Donc oui, c'est parfaitement antidémocratique. Le rationnement serait beaucoup plus démocratique.
Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais donc, peut-être pour conclure en quelques mots, là, c'est que, évidemment, la question du désastre environnemental, elle est évidente. Mm-hmm. Ça, c'est évident. En revanche, la question dont on pose le problème, dont on a à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue d'imaginaire, de ce à quoi ça renvoie, elle, par contre, elle est évidemment centrale. Sinon, ça pourrait bien être pire politiquement, ça pourrait nous échapper. Enfin, je crois qu'on a tout un effort à faire. Et ce que je veux dire, c'est que le simple constat de le désastre environnemental ne va pas être suffisant. C'est-à-dire qu'il va falloir, nous aussi, avoir un discours autour, qui soit un discours désirable.
Et puis pas qu'un discours, mais des études. C'est-à-dire, je pense que, en gros, les scientifiques des sciences dures ont fait leur job sur le constat du changement climatique, l'objectivation de la chose, c'est très solide. Maintenant, l'effet que ça fait sur les sociétés humaines, les économies humaines, bon, on ne sait pas trop, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces fantasmes. C'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de travaux de géographes, d'économistes, puis d'historiens aussi, qui essayent de comprendre un peu qu'est-ce que ça peut faire concrètement. Quoi. Ouais. Et donc, faire les discours les plus simplistes, c'est ça le sujet, quoi.
Ouais. Peut-être pour finir un tout petit rebond, il y avait il y a eu cet été une tribune qui a été publiée pour une science, je sais plus si c'était une science vraie, je sais plus, j'ai noté le terme, je l'ai oublié, qui était une tribune hyper scientiste qui revenait sur des faits scientifiques, et qui était que le réchauffement climatique est un fait. Et en fait, moi je trouve qu'il y a une différence entre c'était une réalité et c'est un fait. C'est-à-dire que et surtout ça veut dire que ce n'était pas une construction sociale. Et en fait, j'ai l'impression c'est faux, et que le réchauffement climatique, il a beau être réel, il n'existe socialement que parce qu'il est diffusé dans la société, et surtout, il aura des formulations particulières. Et évidemment, il ne s'agit pas de nier du tout le réchauffement climatique, mais que la question, c'est comment il est socialement compris et interprété. Et je crois qu'il va y avoir un effort qu'on va devoir faire sur ça, et assumer que le réchauffement climatique existe, mais que c'est une question sociale et politique. Eh bien, la suite, peut-être dans 15 jours, sur la collapsologie, peut-être on va lire un peu les collapsologues, c'est possible qu'on fasse un peu cet effort, on promet rien, mais qu'on voit un peu plus dedans, quelle est leur mythologie, qu'est-ce qu'ils portent réellement un peu dans le texte, et qui c'est ces gens-là. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, on vous laisse avec Musique Antille.